meilleur des années 90 à aujourd'hui. Dès 15h, on sac ça à boil avec les Colosses du rock. La fin de semaine, on te fait vivre le rock à Boulevard 102.1.
Ravel dans le retour.
On a le goût de décrocher, on a le goût d'être rendu à la maison. Si déjà vous avez fait les deux, bravo, cheers, on vous souhaite une bonne fin de semaine. N'oubliez pas que la musique reprend ses droits du comté de Boulevard 102.1 à partir de 18h ce soir. Dès qu'on lâche les micros, Dan Caron ouvre la porte de son garage. Véro, quelques nouvelles de dernière heure en vrac avant de tirer la plug pour le week-end.
Les ingénieurs du gouvernement qui mettent fin à leur grève illimitée qui sévissait depuis quelques semaines et qui a ralenti plusieurs chantiers à travers la province et particulièrement dans la région de Québec. En fait, cet après-midi, on a dit que suite à des discussions intensives de médiation, on a accepté de soumettre aux membres une proposition d'entente présentée par le conciliateur médiateur. Et l'autre affaire, je vous parlais tantôt du ministre Leblanc, ministre fédéral sur les ententes Canada-États-Unis, qui disait qu'on était loin d'une entente avec les États-Unis par rapport aux tarifs qui pourraient être mis en place à partir du 19 août, les 50 % supplémentaires. Et là, semble-t-il que Ottawa a demandé aux provinces et territoires de se tenir prêtes à remettre l'alcool américain sur les tablettes dans l'éventualité d'un accord. Fait qu'on peut estimer que ça a fait partie des discussions et ça, c'est dans la partie casée de la chose.
Dans la circulation, ça ne s'est pas amélioré, Max?
Pas tant que ça, non. Ce serait toujours d'actualité, entre autres pour le boulevard Raymond, là, qui serait toujours fermé à la circulation entre le boulevard du Lac et le boulevard Lloyd Welsh. On est dans le secteur de Beauport. C'est une collision impliquant une bétonnière et une voiture là, qui cause le ralentissement. En fait, la fermeture carrément. Sinon, 20 ouest encore... catastrophique entre Monseigneur Bourget et Taniata. Sinon, boulevard Guillaume Couture, direction ouest entre Chemin des Îles et Chemin du Fleuve. C'est vraiment terrible. Aussi, tout ce qui est l'accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, Duplessis, ça refoule jusque à 40. Par Henri IV, c'est jusqu'à mi-chemin, je vous dirais, entre la 40 et Amel. Capitale Est, ça s'améliore tranquillement, pas vite. Encore un pas pire ralentissement quand même vers Pierre-Bertrand. Capitale Ouest, ça va beaucoup mieux.
Elle est géophysicienne, mais aussi créatrice de contenu historique sur ses réseaux sociaux où elle nous transmet sa passion, entre autres, pour la ville de Québec. En studio avec nous, Misha Horswill. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va?
Ça va super bien.
Là, j'ai hâte parce que le sujet que tu nous parles aujourd'hui, moi, j'accroche souvent tes capsules sur Instagram, puis cette capsule-là en particulier m'a captivé. On va parler de Saint-Joseph aujourd'hui.
Oui, mon artère préférée à Québec.
Moi aussi.
Pour le nightlife, surtout. Puis là, je regarde Max.
Ben, maintenant, je suis tout le temps sur Saint-Jean. Mais oui. Avant de commencer à être tout le temps sur Saint-Jean, j'étais tout le temps sur Saint-Joseph.
Fait OK, je reprends la phrase à Max. Avant d'être barré sur Saint-Joseph, il allait toujours sur Saint-Joseph. Non, mais écoute, n'importe qui a sorti un peu à Québec, qui a eu des années folles à Québec, c'est sûr qu'on a plein de souvenirs qui sont reliés à Saint-Joseph d'une façon ou d'une autre.
Exactement. Puis moi, je l'adore, mais quand j'écoute mes grands-parents parler... Saint-Joseph, actuellement, n'est rien par rapport à ce que c'était aux années 50, 60. Puis encore là, ben j'ai malheureusement plus mes arrière-grands-parents pour m'en parler, mais je pense que ça date d'encore plus loin.
C'était quoi qu'il y avait sur Saint-Joseph dans le temps de ton grand-père?
Parce que tu sais, nous autres, on a connu le mail.
Oui.
Le mail couvert qui était vraiment pas varieux.
Ça, c'est la portion cauchemar de Saint-Joseph.
Mais il y a quand même du monde. Moi, ma barista, entre autres, là, elle m'en parle avec beaucoup de nostalgie. Tu sais, je pense qu'il y a des lieux, des fois, peut-être plus mal famés, mais qu'on apprécie.
Ah oui, elle est vraiment nostalgique. De la section couverte de Saint-Joseph?
Bien, peut-être pas de tout, là, mais de certains éléments. Mais moi, je serais curieuse de savoir, parce que tout le monde a des anecdotes familiales ou des histoires. Fait que s'il y a des auditeurs en ce moment qui ont des histoires...
qui date, ou négatif.
Comme moi, là, je vais vous raconter une histoire de ma grand-mère. Écrivez-nous-la, s'il vous plaît. Moi, je serais curieuse d'entendre ça.
C'est quoi les plus vieux souvenirs que tu as de Saint-Joseph,
Véro? Moi, c'est le mail couvert. Vraiment le mail couvert parce que, tu sais, Saint-Joseph, moi, je suis arrivée à Québec en 1998, puis c'était pas un secteur que tu fréquentais, à part pour le Ashton. Tu sais, il y avait...
la fille qui a un gilet Ashton.
Ben oui!
Effectivement, c'est
T'es-tu franchisé, coudonc?
C'était les dernières années du La Liberté, puis encore là, c'était les madame qui allait magasiner au La Liberté, c'était pas les filles qui étaient à l'université. Les bars dans ce coin-là, il y avait pas grand-chose qui s'adressait à nous autres. Tout était pas mal concentré dans le secteur de la Grande Allée, dans le secteur de l'Université Laval. Fait que moi, Saint-Joseph, ça a été long avant que ça devienne un secteur que j'apprécie. Puis là, tu sais, la nouvelle incarnation sur le plan de la bouffe, entre autres, puis de la culture, ouais, est quand même le fun. Pas parfaite, mais quand même.
C'est revenu la place pour sortir, pour vrai de vrai, là.
Ouais.
La place populaire à Québec pour sortir, c'est plus Grande Allée.
T'as raison.
C'est pas, tu sais, Saint-Jean, il y a des spots le fun, mais c'est vraiment sur Saint-Joseph, là.
Moi, mes souvenirs pour Saint-Joseph, c'est drôle parce que pendant longtemps, c'est une portion de la ville que je connaissais pas beaucoup. Puis à partir du moment où j'ai commencé à marcher la ville de Québec, puis c'est comme ça que je l'ai découvert le plus, moi, je suis tombé en amour avec Saint-Joseph. Puis dès que j'ai à marcher à Québec, c'est par là que je m'en vais. Évidemment, les multiples shows à l'Impérial, les shows que j'ai faits avec des collègues de travail au district Saint-Joseph, puis à côté, au Cercle, dans le temps, c'est des souvenirs que je vais chérir toute ma vie.
Qui est reparti le Cercle maintenant avec le Grizzly Fuzz.
Ben oui, exactement. J'ai des souvenirs flous au Noctem. J'ai des souvenirs plus précis au Noctem,
mais surtout flous.
Oui, on est allé voir de vieux matchs de séries éliminatoires
au Parvis,
effectivement, dans le temps que le Canadien gagnait contre Boston. Puis là, ça a changé, puis là, ça a rechangé.
Ouais.
Bref, on a tous des souvenirs. Mais l'histoire de ta grand-mère et de ton grand-père, j'ai trouvé ça complètement fou parce que c'est pas si loin derrière, mais ça nous montre le chemin qu'on a fait depuis ce temps-là quand même.
Oui, ma grand-mère était née début des années 40, puis elle me racontait souvent une histoire, tu sais, un vieux souvenir d'enfance qu'elle avait où son père à elle, donc mon arrière-grand-père, lui interdisait d'aller magasiner chez Pollack parce que Pollack était juif. Puis, donc, le
chez Pollack, c'était quoi? C'était un magasin général?
C'est un des grands magasins, l'époque des grands magasins, donc ça a commencé vers les années 1910. À son apogée, années 50-60, les années 70, ça a commencé à décliner. Donc, justement, les La Liberté, Syndicat de Québec, Paquette, Pollack.
Avant les gros centres d'achat, là.
Oui, et c'était fou. On va y venir dans l'histoire, là, mais c'était la grosse affaire. C'était the place to be.
C'était qui, ça, Pollack?
Ben attends, je vais y venir parce
vas-y.
Que je veux juste finir l'histoire de ma grand-mère. mais c'est ça, donc, mon arrière-grand-père interdisait d'aller là, mais mon arrière-grand-mère, elle voulait quand même y aller parce que, ben, toutes sortes de raisons, mais entre autres, Pollack, c'était pas cher. Donc, elle partait avec ses deux filles. Ma grand-mère prenait l'autobus. Donc, il partait de la haute ville, descendait en basse ville, allait acheter tout ce qu'il fallait chez Pollack.
Et en cachette.
En cachette. Sur le chemin du retour, il fallait changer de sac, changer les étiquettes. Donc, tout était prévu d'avance et mon arrière-grand-père, donc, a consommé à son insu des produits de chez Pollack toute sa vie.
C'était-tu courant, l'antisémitisme à Québec, à ta connaissance?
Malheureusement, je pense que oui. Puis on n'en parle pas assez souvent. Donc, quand tu m'as dit que t'avais aimé cette vidéo-là, j'étais comme, quelle belle opportunité de parler d'antisémitisme. Pollack est arrivé à Québec en 1902. Il avait seulement 17 ans, donc lui est né en Ukraine à l'époque où c'était l'URSS, la Russie. Et à cette époque-là, tiens, on entend souvent parler d'antisémitisme en Allemagne, mais il y en avait partout dans le monde, c'est pas compliqué. Donc à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle les pogroms, c'est-à-dire que c'était des espèces de mouvements de foule. Tu sais, les Juifs étaient souvent placés dans des quartiers, puis il y avait des mouvements de foule spontanés. Ils rentraient dans des quartiers, puis là, ils s'attaquaient aux Juifs.
Mais voyons donc!
Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des grandes vagues migratoires de populations juives partout dans le monde. Et c'est là que les populations juives de Montréal et de New York se sont mis à grandir. Il y en avait moins à Québec, mais Pollack est un des rares qui a décidé de s'installer à Québec. Mais il a fait un petit intermède par la Beauce avant. Il est arrivé ici, il ne parlait pas français, pas anglais. Il a réussi à contracter un prêt pour s'acheter un cheval. Puis il partait de ferme en ferme, de village en village pour vendre plein de choses, dont des vêtements.
Un genre de vendeur itinérant. Là.
Vendeur itinérant. Puis, apparemment, qui était évidemment très bon et qui réussissait à fidéliser sa clientèle malgré la barrière de la langue au départ. Donc, bien vite, il a eu assez d'argent pour s'acheter un local sur Saint-Joseph. Il est un des premiers. C'était pas encore si cool que ça, Saint-Joseph, à l'époque.
Sais-tu c'était à quelle hauteur? Dans quel coin que c'était chez Pollack?
Bien, chez Pollack a déménagé souvent. En fait, c'est une des manières dont... Donc, Pollack a fait fortune en vendant. C'était un excellent vendeur, mais il s'est mis à acheter à peu près tout sur Saint-Joseph. Un peu la même technique que Marc en ce moment. D'ailleurs, en l'écrivant, j'étais comme « Hey, c'est pas... » Donc, il possédait beaucoup d'immobilier. Et un autre truc dont on entend moins souvent parler, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fourni l'armée, les uniformes des soldats pour l'armée canadienne. Donc, on ne sait pas combien d'argent ça lui a donné, mais probablement que ça devait être un beau montant. Et donc, il a commencé par un petit commerce, ça grossissait, puis là, il y a du monde même de la Beauce, ses anciens clients qui revenaient à Québec. Il y a du monde de Montmagny qui venait à Québec juste pour aller voir Pollack.
Il y avait une notoriété.
Il y avait une notoriété. Il était, les clients l'aimaient. Et ça a été le premier, au tout début, là, quand il a eu ses premiers magasins, à faire des prix fixes. Avant, tu négociais tout.
Sur place.
Okay. Le premier magasin à Québec qui a eu des prix fixes, c'est Pollack qui a
amené ça. C'est donc bien drôle, ça.
Oui. Et ça, pour les gens, c'était un synonyme de modernité. C'était aussi une forme de justice sociale, en fait. Puis c'est vraiment comme ça que Pollack le vendait dans ses publicités. Il dit « Moi, j'ai des valeurs fortes. Je crois à la justice, à l'équité. Tout le monde, que tu sois pauvre ou riche, devrait avoir accès au même prix. » Puis c'est, lui, il faisait toujours les prix les plus bas. Il achetait en gros. Puis c'est comme ça qu'il... Mais c'était pas une place cheap, visuellement, pour autant.
C'était accessible, mais tu avais un certain standard qui venait avec.
Oui, lui, il avait vraiment un look dans la modernité. Il s'inspirait beaucoup de New York. Donc, il a amené un style de magasin qu'on n'avait jamais vu à Québec. Puis là, il y a des escaliers roulants, des vitrines illuminées. Wow, la grosse affaire.
T'sais. Mais là, tabarnouche, s'il y avait de l'antisémitisme à Québec, tout le monde allait là en cachette. Tout le monde se déguisait pour aller là. Comment ça marchait?
C'était pas tout le monde qui était antisémite non plus. Là.
Non, exactement, c'est ça. Fait que oui, il y a eu des vagues d'antisémitisme à Québec, mais mm-hmm. c'était pas tout le monde. Puis il y a peut-être du monde qui allait en cachette, bien évidemment. Mais c'est ça qui est fascinant de voir, en fait, c'est que... Tu sais, il y a eu plusieurs formes d'antisémitisme, reprenons là-dessus.
Oui.
Une des premières, c'était dans les journaux. Il y avait, entre autres, un journaliste, Adrien Arcan, vraiment un fan d'Adolf Hitler. Là. Et lui faisait des...
Oui, parce qu'il y a eu un parti nazi au Québec en passant, puis lui était là-dedans, je pense.
Donc, c'est pas tous les journaux. Entre autres, je pense que Le Soleil a fait... j'ai lu qu'ils ont fait un bon travail dans l'opposé, disons. Mais il y a vraiment des articles de journaux où on voyait le visage. Là, il faisait un gros plan sur le visage de Pollack. Puis il le décrivait comme un singe.
Voyons donc.
Oui, oui, comme il décrivait tous les traits de son visage. Ensuite, les curés dans les églises, puis je pense que ce qui est arrivé avec mon arrière-grand-père, interdisaient à leurs fidèles d'aller chez Pollack.
D'un sermon de l'église, on parlait de Pollack, puis on disait de pas aller là.
Exactement. Il y a eu ça. toutes sortes de formes. Ah, puis ben ensuite, bon. Quand la communauté juive est arrivée à Québec, la première synagogue était dans la basse ville parce que ceux qui arrivaient, ils étaient pauvres. Et donc, souvent, les pauvres, c'était dans la basse ville. Puis, au fil du temps, la communauté juive s'est répandue un peu partout dans la ville. Donc, ils ont voulu, quand la synagogue est devenue trop vieille, ils ont voulu la déménager. Pollack possédait plusieurs terrains. Donc, lui a dit, on va construire une synagogue sur mon terrain. La ville a fait changer le zonage pour l'empêcher de construire une synagogue. Finalement, il a réussi, comme sur Crémazie, à faire... construire la synagogue, et jour 1 de l'inauguration, ça a été brûlé. Il a fallu qu'il repaye de sa propre poche pour... Donc oui, et malheureusement, j'hésitais à en parler ou pas, mais je vais le dire, quand je l'ai faite, cette vidéo-là, moi, que j'ai publiée sur les réseaux sociaux, j'en ai eu beaucoup des commentaires racistes que j'ai effacés.
Encore en 2026,
encore aujourd'hui, ça existe. Donc, c'est ça. Nous cachons pas les yeux.
Mais moi, c'est quelque chose, puis je sais qu'on vit une certaine naïveté avec ça, tu sais, on a l'impression que le racisme, c'était juste dans le sud des États-Unis. On a l'impression que l'antisémitisme, c'était juste en Allemagne. Puis moi, c'est ça qui m'a frappé dans ta vidéo, c'est qu'avec énormément de candeur, tu nous as dit, mais moi, mon arrière-grand-père interdisait mon arrière-grand-mère d'aller magasiner chez un juif, puis l'Église, elle voulait pas qu'on aille magasiner chez des juifs.
Puis mon arrière-grand-père, c'était pas une mauvaise personne, mais moi,
j'allais dire que c'était dans l'air du temps, mais avec les commentaires que tu as reçus sur ta vidéo, c'est pas vrai.
Exactement.
Ben, écoute,
assumons-le.
Le pire, c'est qu'on s'est rendu. Je veux dire, moi, le nombre de fois quand j'étais jeune que j'entendais quand je faisais des mauvais coups, mon petit juif. Tu sais, c'est des affaires qu'on disait, une génération et demie en arrière de la mienne. Puis souvent, les gens ne savaient même pas d'où ça venait ou pourquoi on disait ça, mais ils le disaient pareil, tu sais.
Ouais.
Fait que finalement, ma mère est raciste. Au
moins, quand Pollack était en Beauce, il ne devait pas en avoir de racisme en Beauce.
Mais dis-toi qu'il avait suffisamment de clientèle pour être capable de mettre sur pied sa business à Québec.
Ça, c'est le plus impressionnant.
Ça, c'est étonnant parce que tabarnouche, il serait devenu... S'il n'y avait pas eu l'antisémitisme en tant que tel, ce serait devenu l'homme d'affaires le plus important de l'histoire de la ville, à peu près.
probablement, mais en tout cas, c'est devenu un des philanthropes les plus importants de la ville. Donc, il a fait fortune et a pris sa retraite assez jeune. Et à partir de ce moment-là, l'œuvre, il s'est dévoué à une seule chose et s'est redonné à la société. Parce que, comme je disais, c'est quelqu'un qui avait ses valeurs vraiment à cœur puis qui agissait en fonction de ses valeurs. Et lui disait donc qu'il était bien au courant qu'il avait fait fortune et ça, c'était grâce aux Canadiens français, aux Québécois. C'est eux qui achetaient de ces produits au final. Donc, ils sentaient vraiment le devoir de leur redonner. Donc, il a contribué à l'Orchestre symphonique de Québec, à l'Université Laval, à plein. Le secteur du Ménil, ça lui. Ménil, non, un peu. À Sainte-Foy, le plateau, là, où il y a plein de petits magasins.
Campanile,
merci. Oui. Campanile, ça lui appartenait. Il y avait des grands vergers. Il a donné beaucoup de ce secteur-là.
Il y a un pavillon à son nom, l'Université Laval.
Exactement. Donc, je veux dire,
il y a eu beaucoup de parties au Polac. Fait que, Saint-Joseph, puis Polac, ça
marche. Exact. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là qui s'en sentait le devoir de redonner, puis qui a toujours, à ses risques et périls,
ben oui,
assumé le fait que c'est important la diversité culturelle. Il a mangé la claque à cause de ça. Mais...
Puis c'est un gars qui aurait pu se refermer dans un climat difficile, mais au contraire, je veux dire, il a fait exactement l'inverse, puis ça a dû faire réfléchir des gens à l'époque. Misha, Véro a mis la main sur une publicité qui a été diffusée dans le journal Le Peuple pour l'inauguration du Polac du 75 rue Saint-Joseph en novembre 1931. Puis là, on voit un dessin avec les baies vitrées en avant du magasin, puis je vous lis l'annonce, je trouve ça cute, puis drôle en même temps. Mesdames et messieurs, nous annonçons pour samedi le 28 novembre l'ouverture du Polac Limité, le nouveau et plus grand magasin, un seul prix et tous les prix visiblement marqués. Le magasin de vêtements pour tous, à un seul prix et au comptant, s'établit à Québec, apportant de nouveaux conforts, de nouveaux services et de nouvelles valeurs. Hey, c'était beaucoup de choses affichées fièrement quand même.
Un seul prix, comme c'est... Aujourd'hui, c'est comme, ben oui, là...
Puis tu sais, l'étiquetage, tu sais, le prix visible. Maintenant, il est là, le prix, là. Tu le cherches pas, tu le demandes pas, il n'y a pas de passe-passe.
Je pense même que c'est légal.
Exact, exactement.
Hey, moi, s'il n'y a pas de prix décrit nulle part, je passe ma vie à me faire fourrer, c'est sûr, sûr, sûr. Hey, Micha, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne fin de semaine. Misha Horswell, suivez-la sur ses réseaux sociaux, des histoires fascinantes. Puis une fois de temps en temps, quand elle a le temps, elle vient nous partager ces belles histoires-là. 17h26, vous êtes à Boulevard.
Pour joindre l'équipe de Gravel,